Question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Aujourd'hui, ici Mario Barr, très heureux de vous retrouver avec une voix un peu éreintée. Vous aurez compris que j'avais une petite grippe la semaine dernière et qu'elle a laissé des séquelles importantes sur ma voix. Ce qui ne m'empêche pas d'être avec vous aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous est présentée bien sûr par l'Office de catéchèse du Québec. Aujourd'hui, nous avons avec nous Daniel Cadrin. Il est religieux chez les Dominicains. Et il est co-auteur, en fait, co-orateur également, j'oserais dire, puisque La vie religieuse, regard sur l'avenir, un petit livre d'à peine 80 pages, publié chez Mediapol l'automne dernier, recense en fait trois interventions qui ont été faites lors d'un colloque qui s'est tenu à l'Université Laval de Québec. Et donc trois figures reconnues de la vie religieuse québécoise étaient présentes. L'abbé Gilles Routier, sœur Lorraine Cazan et le frère Daniel Cadrin. Daniel, bonjour.
Alors bonjour Mario.
Je vais vous laisser parler, allez-y. Sérieusement Daniel, merci beaucoup d'être là.
Plaisir. J'espère que tu ne nous prendras pas en grippe après ta semaine.
Daniel, vous êtes membre des Dominicains qui fêtaient, en fait, là, qui viennent de terminer...
800 ans.
800 ans.
Ah, ça, ouais.
Bon, pas vous, là, mais...
Ouais.
Est-ce que les Dominicains se sentent vieux?
Pas du tout. Non. Ben, 800 ans, mais 800 ans qui ont eu des hauts, des bas, des... On a failli mourir, on est ressuscité. Il y a eu des périodes difficiles, des périodes de grand rayonnement. Il y a de tout. Mais actuellement, l'ordre est en santé.
Oui.
Plusieurs vocations. Beaucoup de jeunes. Peut-être pas ici au Canada, mais l'ordre est universel. Hein, alors, on apprend à voir la vie religieuse d'un point de vue plus universel. À un moment donné... Il y a un creux dans une région, puis ça, il y en a beaucoup ailleurs, puis 30 ans plus tard, c'est le contraire. Alors, faut pas trop s'énerver avec
non,
ça.
Vous avez une vue relative
oui.
sur ce qu'est une communauté, sur
oui.
le nombre de personnes qui devraient y être.
Oui.
Ça aide beaucoup, donc d'être international comme
ça.
Ah,
ben, je comprends, c'est une condition d'avenir aujourd'hui pour une communauté. Hein. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, d'une ou de deux cultures seulement, ben, t'es faite. Hein. Si tout à coup ça marche pas, t'es fini. Mais si t'es en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, enfin ici et là, ou pourquoi pas à Tahiti, par exemple, eh bien là, t'as beaucoup plus de chances de survie.
Ouais.
Et c'est vrai pour les anciennes communautés, c'est vrai pour les communautés nouvelles. Je travaille un petit peu avec Marie Jeunesse, qui a été fondée ici, au Québec. Je vois qu'ils sont maintenant en Europe, en Belgique, qu'ils sont dans les territoires français ou des départements français, ils sont à Tahiti. Ils sont à La Réunion. Bon, je me dis, tiens, ça, c'est de santé pour l'avenir, pour tout groupe. Bon, nous, comme ça fait 800 ans qu'on est là, alors on est un peu partout, évidemment. Mais ça aide. Et je regarde actuellement dans quel pays est-ce que nous avons chez les frères plus d'entrée de vocation. Ça pourra surprendre peut-être bien des gens. Ce n'est pas nécessairement dans un pays du Sud, c'est dans un pays du Nord. C'est aux États-Unis.
Ah oui?
Oui, nous avons beaucoup d'entrées aux États-Unis. Il y a quatre provinces. Pour dire les États-Unis, c'est une bonne partie de l'Europe. C'est plus de 300 millions d'habitants. Hein, alors.
Effectivement.
De fait, quand on regarde ça,
oui,
là,
c'est vrai.
On a quatre provinces et des dizaines de frères en formation.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une communauté peut durer ou... Bon, il y aurait plusieurs questions.
Plusieurs facteurs, hein, oui.
Mais tout d'abord, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une communauté peut durer?
Ouais. Faut qu'elle ait une identité assez claire. Faut que tu saches qui tu es, pourquoi tu existes, quel est ton but. Et une identité claire, une identité, donc t'as une mission, tu sais quelle est ta mission, et tu as une spiritualité forte aussi, qui vient donner l'élan à la mission.
Qui vient souvent avec le fondateur ou la fondatrice.
Habituellement, t'as ça aux origines. Et c'est, on y revient dans les moments d'incertitude ou de crise. Bon, on peut toujours revenir aux origines, voir pourquoi on a été fondé, comment ça peut s'exprimer aujourd'hui. Mais quelle page d'évangile était derrière cela? Qu'est-ce qui inspirait? Toi, nous, c'est pas compliqué. Notre nom officiel, c'est les frères prêcheurs.
Bon. Oui.
Frères. Donc, nous sommes une fraternité. Dans notre spiritualité, la vie communautaire fraternelle est absolument centrale. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de communautés, mais pour nous, absolument centrale. Prêcheurs. Nous sommes donc centrés sur la parole. La parole à annoncer, mais la parole à écouter, la parole à approfondir, à étudier, de toute manière. Alors, donc, notre spiritualité va être très marquée par la parole de Dieu. Bon, là, je vous donne un exemple parce qu'on se connaît mieux. Donc, on a une identité assez claire. On sait qui on est.
Ouais.
Et ça, c'est important. Il y a eu beaucoup de communautés. Actuellement, la majorité des communautés existantes ont été fondées au 19e siècle. C'était le plus grand siècle de fondation de communautés dans l'histoire.
Dans l'histoire de l'Église.
Oui, au 19e siècle, au moment même où il était annoncé que la vie religieuse allait disparaître à jamais. Tout ça était complètement fini. Elle a été abolie dans beaucoup de pays. Et puis, il y a eu ensuite cette absolument remontée remarquable. Et le premier pays où il y a le plus grand nombre de fondations au 19e siècle, c'est le pays même où il y a eu la Révolution, c'est en France.
C'est fou quand même.
C'est hein? Du paradoxe, là. Oui. C'est incroyable, comme tel. Mais beaucoup des communautés fondées au 19e, pas toutes, la spiritualité était moins claire. C'est une dévotion où on prenait une spiritualité existante. Et la mission était très centrée sur des tâches. Action. Oui. Alors ça, c'est très bien, tu fais un grand service, mais à ce moment-là, ça limite ta durée.
Ouais, parce que les actions ne sont pas...
À un moment donné, les conditions changent et si c'est juste l'action, ça marche pas. Faut que tu aies une mission plus vaste ou plus approfondie et avec une spiritualité solide. Alors, plusieurs des congrégations fondées au 19e siècle vont disparaître. Et c'est pas surprenant.
Et c'est ce qu'on voit présentement au Québec.
Oui, oui.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été fondés justement au 19e siècle. Oui.
Mais tu sais, tu regardes l'histoire. Moi, j'enseigne sur l'histoire de la vie religieuse. Alors ça me donne un point de vue un petit peu particulier. Il y a eu des grandes crises au 16e siècle avec la réforme protestante, la fin du 18e siècle avec les révolutions, et récemment. Et je regarde les deux grandes crises précédentes, 16e, 18e. La majorité des communautés religieuses ont disparu lors de ces crises.
Mm-hmm.
Alors, c'est déjà arrivé, là, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais la vie religieuse n'est pas disparue. Il y en a qui ont survécu, il y en a des nouvelles qui sont nées, puis ça a repris. T'en fais la courbe, là, ouf, ça descend, hop, t'en remontes, ça descend. C'est comme ça.
Donc, vous avez plus ou moins d'inquiétude.
Non, plus ou moins.
Face à ce qui se passe présentement au Québec, par exemple.
Oui, actuellement, c'est sûr qu'il y a il y aura une chute très nette au plan de la démographie. Mais il faudra voir dans 40 ans où ça sera, tu sais, selon les pays, ça va varier aussi. Il y a des endroits où la vie religieuse au 16e siècle est disparue, elle n'est jamais réapparue. Bon, tu sais, mais elle est apparue ailleurs. Tu sais, ça se promène, non, dans la géographie.
Ouais.
Je pense aux pays d'Europe du Nord, où étaient les protestants. Bon, la vie religieuse a été abolie à beaucoup d'endroits. Il n'en est resté pas grand-chose. Hein, c'est pas revenu. Hein. Dans plusieurs pays arabes aussi, bon. Alors, donc, il faut avoir un regard plus large dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, ça c'est complètement nouveau, ça n'a jamais existé avant. La vie religieuse est présente dans l'ensemble du monde, hein, dans tous les continents. Ça n'a jamais existé avant le 20e siècle, au fond. Tu sais.
Ah ben oui.
Alors, donc, ce qui est très différent des crises précédentes, c'était ou européen ou telle région. Là, il y a une crise en Occident davantage, dans les pays du Nord, mais bon. Il peut y avoir une crise d'un endroit, mais ailleurs, la vie religieuse commence, tu sais, ou est en renaissance. Alors, le contexte actuel est nouveau et changé. Et c'est pour ça que j'ai dit que les communautés qui veulent avoir un avenir ont besoin d'être beaucoup plus interculturelles ou internationales, parce qu'un endroit, bon, ça, En Allemagne, ça marche plus tellement comme le Québec pour l'instant, mais ailleurs, ça pousse au Cameroun, au Pérou.
Il y a un nombre incroyable de communautés.
Oui, alors ça, et ces données peuvent changer plus tard. Hein? Il n'y a rien de figé. L'histoire est remplie de surprises. Hein? Une des plus grandes surprises sur la vie religieuse, c'est ce qui s'est passé en Russie après la chute du communisme, à partir de 1989, hein, depuis la révolution de 1917, t'as eu en Russie un athéisme d'État anti-religieux clairement net. La vie monastique religieuse, c'est la seule forme là-bas, a pratiquement été supprimée. En 1989, on dit qu'il restait 3-4 monastères en Russie. Bon, on a fini. Aujourd'hui, on est quelques décennies plus tard, il y en a probablement 300-400 monastères.
Ça a été rapide.
Très rapide, personne n'avait prévu.
Voilà.
Peut-être après ça va redescendre aussi, mais... Je veux dire, l'histoire est imprévisible. Moi, j'ai un bel exemple de ça. C'était hier soir, j'écoutais le Super Bowl avec... Pas écouté avec le match des Super Bowl.
Oui, oui.
Les Patriotes de Nouvelle-Angleterre.
Vous avez remporté votre Super Bowl.
Un troisième quart, bon, 28-3. J'ai dit, les Patriotes, c'est fini. Bon, c'est réglé. Et puis, ça a fini qu'ils ont gagné. C'était complètement imprévisible. Mais ils ont réussi à... Je veux dire, l'histoire est faite comme ça aussi.
Oui. Imprévisible.
Imprévisible, ça arrive aussi dans la vie de l'Église, dans l'histoire de la vie religieuse aussi.
Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui et on se trouve présentement en compagnie de Daniel Cadrin. Daniel Cadrin, il est historien des religions, de la vie religieuse. Il est également directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal et il co-signe, en fait, j'oserais dire, c'est le compte-rendu d'une conférence qu'il a donnée dans un colloque sur la vie religieuse, Regard sur l'avenir, qui est maintenant disponible chez Mediapol en format petit volume. Gilles Routier et Lorraine Cazas sont ses acolytes, j'oserais dire. Daniel, on parlait de l'avenir de la vie religieuse. Est-ce qu'il faut absolument, et là, ma question est tellement large qu'on va passer des heures là-dessus, mais on n'a pas des heures, mais bref, est-ce qu'il faut absolument une vie religieuse aux églises ou à l'église catholique en particulier?
Oui. Étant moi-même religieux, je peux te répondre oui, parce que les religieux
et pourquoi?
Les religieux et les religieuses apportent un signe original, qui, s'il n'était pas là, mais je trouve que ça manquerait. Il y a plusieurs, selon les communautés, c'est un peu différent. Il y a de la vie monastique, de la vie plus apostolique, bon. Mais dans tous les cas, pour moi, un des signes importants de la vie religieuse, c'est la vie fraternelle en communauté.
Ah oui.
C'est essayer de témoigner qu'il est possible d'être différent, de vivre ensemble, mais même de vivre ensemble provenant de cultures différentes, d'univers différents.
Dans le fond, c'est un microcosme.
Microcosme de l'Église.
De la capacité de l'Église,
oui,
à dire
exactement.
Nous pouvons vivre ensemble.
Oui, et ça, je pense, Jean-Paul II avait beaucoup insisté là-dessus, le pape François insiste beaucoup là-dessus, sur le rôle des communautés, d'offrir ce signe. Hein. C'est un signe ecclésial, mais nous,
oui.
Comme vous vivez ensemble, ben, montrer qu'on peut le faire. Tu sais.
Oui.
Alors ça, je trouve ça signifiant. Bon, ensuite, il y a différents, plus de l'ordre des services que les communautés religieuses ont pu offrir dans le monde de la santé, dans le monde de l'intelligence de la foi, dans le monde de l'éducation, dans plusieurs domaines. Il y a eu un apport absolument remarquable. Je pense aussi à Marguerite Bourgeois, entre autres. Tout le côté très innovateur au plan pédagogique qu'elle a amené, hein, ici. La tradition c'est une grande tradition, la Congrégation de Notre-Dame, tu sais, à Montréal. Ou bien Marguerite, les deux Marguerites, là.
Marguerite Dioville.
Le 375e de Montréal. Marguerite Dioville, une femme absolument extraordinaire, hein. Jean-Maintois l'appelait la mère à la charité universelle. Les vieillards, les enfants, les gens de la rue, tout le monde, les malades, tout le monde, elle accueillait tout le monde, même les soldats anglais au moment de la guerre. Hein. Une femme qui avait une vie difficile, perdu 4 de ses 6 enfants. Marie, pas très sympa, mais elle a bâti cette communauté qui a porté fruit. Alors tu sais, bon, je vous dis, ça vaut la peine.
Oui.
Ces deux exemples fondés à Montréal ici même, là, tu sais.
Ouais,
communautés fondées ailleurs.
Mais
des communautés ici.
On pense au sort de la Providence, au sort de la miséricorde, on pense.
C'est ça, la miséricorde de Rosalie Cadron-Jeté, pleinement fascinant. Ce qu'elle a fait. Elle s'occupait des gens dont personne ne s'occupait, les filles de la rue, hein, qui avaient des enfants. Elle les a traités avec bonté. Elle les a vus comme vraiment des enfants de Dieu et leurs enfants. Absolument magnifique. Hein?
Et ça, c'est un signe de la vie religieuse.
Ah, oui. Elle portait un regard unique, là.
Ouais.
Comme tel. Et en fait, elle a développé un service aussi, une présence, là, beaucoup mieux organisée auprès de ses femmes.
Hein? Mais Daniel, comment aujourd'hui on peut développer une nouvelle vie religieuse? Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, particulièrement à cause de notre histoire, on était un peu pris dans l'imaginaire de ces communautés immenses.
Oui, c'est fini, ça.
Et il y a encore des gens pour qui ça parle beaucoup.
Oui.
Il faut sortir de ça, j'imagine.
Oui, ça reviendra pas, ben non. Il faut accepter, puis nous, Dominicains inclus, que notre vie religieuse dans les prochaines décennies au Québec va être très modeste. On sera pas nombreux, on sera assez âgés. Mais je le dis dans le livre, j'ai dit à plusieurs reprises, on peut avoir une moyenne d'âge un peu élevée, être des hommes, des femmes de 75 ans qui sont heureux de vivre ensemble ou qui offrent un service quel qu'il soit, mais ça n'enlève absolument rien à la qualité évangélique du signe qui est offert, quel que soit l'âge, le nombre. C'est pas le nombre ou la jeunesse qui est garant de la qualité évangélique d'un signe offert ou d'une présence. Et ça, on sera moins nombreux, peu nombreux et plus âgés, puis il y aura quand même quelques jeunes aussi. Je crois, plus discret. En un sens, c'est peut-être un peu plus normal, tu sais. Ce qu'on a connu au Québec est exceptionnel, là, je veux dire.
Ouais.
Avoir autant de communautés, autant de monde, puis autant d'institutions.
C'était, dans l'histoire de l'Église, c'était
unique. Ouais, c'est ça qui est un peu spécial,
ouais.
Tu sais. Je me dis, bon, ce qu'on a, peut-être l'inverse, mais, je veux dire, c'est normal. J'écoute, si tu retournes, premier siècle, début de l'Église, Saint-Paul, des petites communautés, sont pas nombreux, ils essaient de rayonner le Christ, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont interculturels dès le début, c'était très important, comme fraternité.
Et ils sont dans des villes,
essentiellement.
Qui sont interculturelles,
ouais.
Qui sont marchandes, un peu ouais. Comme le sont nos villes
ouais.
Aujourd'hui.
Ouais. Alors, bon, puis je veux dire, on n'est pas... On peut essayer d'offrir un signe un peu semblable, d'une part. D'autre part, il y a quand même du nouveau au Québec, il faut le dire. Ce sont ce qu'on appelle justement les communautés nouvelles. Ça, c'est moins ma spécialité. Moi, je suis plus dans les communautés de tradition ancienne. Et dans le petit ouvrage, il y a l'article de la conférence de Lorraine Cazat qui porte
oui.
Là-dessus. Mais bon, j'ai travaillé quand même avec quelques communautés nouvelles. C'est très intéressant. Dans les caractéristiques des communautés nouvelles, c'est des communautés dans la ligne Vatican II où il y a, c'est mixte, hein, des hommes, des femmes, des couples, des célibataires, au point de départ, constitue
oui.
la communauté comme telle. Alors ça, c'est intéressant, c'est vraiment le peuple de Dieu. C'est une intuition qui est centrale, là, qu'on trouve dans beaucoup des nouvelles communautés. Chemin Neuf, c'est clair, Marie-Jeunesse, bon, il y en a beaucoup d'autres. Alors ça, je me dis, c'est intéressant. T'sais. Ils ont aussi un grand sens, la vie fraternelle est très importante, l'expression par la prière aussi, une expression développée, chanter l'importance de l'art au fond, hein, de
célébrer
la musique,
par la musique.
Le chant. Oh, oui, ouais. C'est ça. Plus peut-être que les anciennes communautés. Alors ça, je me dis, c'est excellent. Donc, il y a des dons, là, qui sont avec les communautés nouvelles et qui, elles, vont aller chercher peut-être un peu plus des jeunes. Mais tu sais, dans les communautés, c'est pas compliqué. Les jeunes vont aller où il y a des jeunes. Hein? Bon.
Oui.
Ça. Bon, si je regarde, il y a des communautés qui attirent actuellement, ça c'est nouveau, des gens de tout âge qui entrent dans les communautés, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, parce qu'on vit plus longtemps.
Oui, c'est vrai.
Alors ça fait partie de la nouvelle donne, là. Faut arrêter de rêver que ça va, pour que ça soit des petits jeunes de 25 ans.
Vous en avez chez les Dominicains?
Oui, oui, actuellement, on a deux novices, sur cinquantaine, là, tu sais. L'an dernier, on a eu un dans la soixantaine.
Et bon. Ce sont des gens qui sont encore en pleine forme. Ben
oui, c'est ça, aujourd'hui. Et aujourd'hui, les parcours de vie sont beaucoup plus longs, plus complexes. La découverte de la foi, tout ça, l'entrée dans ce chemin à la suite de Jésus-Christ. Il y en a qui vient plus tard, et puis... Il faut être beaucoup plus sensible qu'on l'était avant.
Ouais.
C'est une nouvelle vocation, si je peux dire, à tous les âges de la vie. C'est ça qui est neuf. Là, faut vraiment sortir de notre ancien imaginaire où il y a beaucoup de monde, puis toutes des jeunes, puis on a des grosses institutions, tu sais, ça a été très bien, mais là,
ça on est à autre chose complètement.
On est à autre chose, ce qui est valable aussi.
D'aujourd'hui, en compagnie de Daniel Cadrin, directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal, également spécialiste de la vie religieuse. Daniel, face au sécularisme qui semble extrêmement fort aujourd'hui dans nos sociétés, comment peut-on toucher les jeunes générations qui sont touchées par le sécularisme?
Moi, je suis pas un expert du travail auprès des jeunes. Je travaille plus en formation des adultes et un peu plus âgés, qui sont des étudiants à l'institut.
Est-ce que vous avez des...
Ou avec les communautés religieuses, ouais, qui sont des gens plus âgés. Bon, quand même, je dirais là-dessus qu'il faut être sensible à des événements signifiants pour eux. Je regarde quand il y a la naissance d'un enfant, les jeunes adultes sont touchés par cela beaucoup.
Ah oui.
Quand il y a la perte d'un proche, ils sont très touchés aussi. Ça ouvre un espace pour un questionnement. Alors, et en même temps, je me dis aujourd'hui, moi je m'attends à ce que les gens arrivent à un choix plus religieux un peu plus tard qu'avant. Parce que les cheminements sont plus longs, ils sont très occupés. Je vois, ben, quand neveux et nièces sont tellement occupés à mettre des choses.
C'est vrai, hein? On étudie, on a des activités, choses, des amis, etc.
Je disais récemment, je sais plus où, mais peut-être c'est la deuxième partie de la trentaine qui devient un âge plus significatif aujourd'hui pour que les gens s'ouvrent davantage à, c'est pas rigide, là, mais à une espèce de recherche de sens. Une quête spirituelle.
On se rapproche peut-être davantage du sens du mot presbyte, les anciens,
ah, oui,
qui forment une vie religieuse,
oui, oui,
un peu plus sage, oui, ou en tout cas.
Moi, je pense que dans la vie religieuse, on aura plus de gens, moins de jeunes, mais des gens d'âges différents.
Ouais.
Comme tel. Et c'est normal, je trouve.
Donc une grande
dans
variété.
Dans le contexte actuel, dans le nouveau contexte démographique où nous sommes, où les âges de la vie sont beaucoup plus développés, hein. C'est ouais, très différent. Hein. Et les gens, souvent, au cours d'une vie, font 4 ou 5 carrières, hein, ou 4 ou 5 engagements très différents. Et à un moment donné, il y en a pour qui le nouvel engagement sera la vie religieuse. Hein. Ouais. Faudrait voir aussi, ça, il y a la grande tradition monastique qui a été importante au Québec, je pense aux trappistes, je pense aux bénédictins. Ça, actuellement, il y a très peu d'entrées. C'est une vie très exigeante,
oui,
ça, je dois dire. C'est plus austère, puis c'est stable, hein. On passe sa vie au même endroit.
Oui.
Alors, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile.
Ça demande un caractère particulier.
Oui, oui, oui. Mais enfin, j'espère que ça pourra se maintenir, parce qu'on a vraiment besoin de ces hauts lieux de silence, hein, de méditation,
oui,
de prière. Et ce sont les seuls à pouvoir les fournir. Nous, on a les moniales dominicaines à Vancouver et à Shawinigan. Ce sont des contemplatives aussi. C'est spécial, hein. Et moi, j'aime beaucoup. Moi, je sais que c'est pas ma vocation, c'est clair. J'aime y aller. Et ça, parce que j'espère qu'il y aura des gens qui, à nouveau, qui seront touchés par ça.
Ouais. Daniel, on peut encore souhaiter que les Dominicains fassent un autre 800 ans?
Ah, ben oui, ça, je crois. Oui, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Ensuite, j'étais au congrès de clôture de l'ordre il y a quelques semaines. C'est très dynamique, très jeune.
Oui, donc.
Plein d'espoir.
Vous le voyez complètement.
Ah oui.
Daniel, eh bien, merci beaucoup. Je vais rappeler que Daniel Cadrin, il est directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Institut d'ailleurs qui donne, qui continue à donner des cours là, pour tout et chacun.
C'est très actif toujours. Et puisque cette émission est sous chapeau de l'Office de catéchèse du Québec, je veux dire aussi que je suis engagé dans le service d'aide aux catéchètes de l'Office de catéchèse du Québec.
Ah ben c'est important.
Ouais.
Daniel Cadrin, merci beaucoup.
Merci à toi, Mario.
Et donc, je vous rappelle que cette émission, bien sûr, est disponible en balado-diffusion sur le site web de votre station préférée, soit Radio Galilée, soit Radio VM. Merci beaucoup à Han Willins, à la régie. Et je vous rappelle que Question d'aujourd'hui reçoit le gracieux soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse pour la réalisation de cette émission. Ici Mario Barre, j'espère que je serai en meilleure forme la semaine prochaine avec une voix retrouvée. Sinon, je vous souhaite une très très belle semaine à l'antenne de votre station préférée. À bientôt.